Ramener à l'enfance. Subtile, protectrice, pavée de bonnes intentions, cette manipulation collective est l'occasion de renforcer un statut de dominant tout en obtenant des résultats. Car rien qu'en lisant le nom de la méthode, votre cerveau vous renvoie l'image d'un enfant, donc de parents. Justement, nous avons été habitués depuis notre plus tendre enfance à avoir une confiance aveugle dans nos parents, ces personnes qui savent mieux que nous et qui imposent des règles pour notre bien. Nous savons donc que nous devons les écouter. La manipulation par l'infantilisation consiste à manipuler le groupe en lui rappelant qu'il n'est pas autonome. Comme toujours, je ne dis pas que c'est toujours fait sciemment, mais c'est le résultat naturel. Imaginez que je décide de vous rappeler en permanence de boire 2 litres d'eau par jour, dans toutes les publicités où les boissons ne sont pas exemptes de tout reproche nutritif. Est-ce que je vais vous influencer positivement à boire plus sainement? C'est possible, et je pense sincèrement que ça serait le but initial. Mais paradoxalement, je rappellerai au groupe qu'il n'est pas autonome, que je sais mieux que lui et que je suis obligé de lui rappeler ce qu'il faut faire. Pire, j'enverrai le message indirect que le groupe ne doit pas trop se poser de questions, car je lui amènerai toujours les réponses et les directions à suivre. Les publicitaires utilisent beaucoup cette manipulation collective. Les scénarios, la manière de parler, le positionnement, les gestes, les intonations, tout est fait pour éviter que votre esprit critique ne soit trop actif. Si la publicité place le groupe dans le rôle d'enfant, alors le groupe considérera le produit comme un parent en qui avoir confiance. CQFD. Pourquoi, des années après, nous nous rappelons les slogans et les musiques de certaines publicités? Parce qu'elles sont souvent construites comme les comptines de notre enfance, avec une recette simple, agréable à prononcer, peu de notes différentes, une ritournelle qui peut reprendre en boucle sans lasser, des phrases qui riment. Les ritournelles entêtantes. Procédons à un test simple, où je vais essayer de sélectionner différentes périodes pour que tout le monde puisse avoir un résultat. Complétez ces slogans. Va donc chez, Décathlon à, Carglass, Carglass. Vous avez sûrement entendu les mélodies dans votre tête, comme pour une comptine. C'est à force de répétition que ces slogans sont entrés dans votre esprit. Le plus incroyable, c'est que le jingle de Speedy, qui ne devait servir au spot que durant 3 ans, était tellement ancré dans l'inconscient du public. Un sondage début 2010 a démontré que 97% des personnes identifiaient la marque en écoutant simplement la mélodie, qu'ils ont dû renoncer au début des années 2000 à changer leur musique. Ils voulaient justement monter la marque vers une gamme plus classe, et le public, comme un enfant, était mécontent qu'on lui change sa chanson. Pour terminer sur une note amusante, si je puis dire, l'ancien chanteur de Pink Floyd, David Gilmour, était tombé amoureux du si reconnaissable « ta, 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 ta » avant chaque annonce de la SNCF. Suite à une tournée dans le sud de la France, il a contacté directement la SNCF pour obtenir l'autorisation d'utiliser le morceau, car même un jingle est soumis au droit d'auteur. Et ainsi est née la chanson de 2015, « Rattle That Lock ». Gardez l'œil ouvert pour rester autonome. Voyez lorsque l'on veut infantiliser le groupe, car au final, même avec des intentions louables, il n'est jamais bon d'endormir l'esprit critique d'un groupe. Le problème avant tout. Ici, pas de doute. Lorsque cette technique est utilisée, il y a une volonté de manipuler le groupe. L'idée tient en une ligne. Pour atteindre mon but, je vais créer un problème dont la seule solution est justement ce que je veux au départ. Il faut comprendre que la psychologie d'un groupe ressemble beaucoup à la psychologie individuelle. Comme je vous l'explique au début de ce chapitre, la seule composante qui change réellement est la durée du processus. Cette manipulation collective joue sur le fait qu'une idée qui émane spontanément d'une personne sera liée par l'affect à cette personne. Elle va donc la défendre, la porter et argumenter en sa faveur. C'est pourquoi cette manipulation fonctionne en 2 temps. Dans un premier temps, il s'agit de créer un problème opposé à ce que l'on souhaite. Si, par exemple, je souhaite faire des économies dans mon entreprise en supprimant des avantages en nature, comme les aliments à disposition dans la salle de repos, les cadeaux aux anniversaires des salariés, etc., je vais plutôt me concentrer sur le fait que j'envisage des licenciements économiques pour sauver la société qui est fragilisée en ce moment, même si c'est faux. Car comme je ne fais que courir le bruit de cette information, je n'ai pas encore à produire de preuves légales qui justifient ce type de licenciement encadré par la loi. Le problème est créé. Je peux même me payer le luxe de m'afficher dans le bon camp en critiquant cette finalité, en exprimant mon désaccord sur cette décision que moi-même je juge injuste et extrême. J'aurais fait naître le problème et la colère ou la peur vis-à-vis de ce problème. Tout est à point pour entrer dans la deuxième phase, la solution proposée par le groupe. Le groupe étant fatalement contre le problème, il va vouloir le résoudre, trouver une alternative, voire vouloir démontrer qu'il y a d'autres solutions. Si nous continuons le précédent exemple, on peut facilement imaginer que des membres du groupe vont chercher à sauver les emplois. Et au cours de certaines discussions, je pourrais laisser entendre que les frais généraux sont trop imposants, qu'il faudrait peut-être essayer de réduire des dépenses pour essayer de maintenir les salaires, jusqu'à ce que le groupe lui-même fasse des propositions en ce sens. Une fois les propositions adoptées, mon but initial sera atteint, et le groupe aura un sentiment de victoire en venant de perdre une partie de leurs avantages en nature. Car c'est le paradoxe de cette manipulation lorsqu'elle est savamment orchestrée. Le groupe perd sans le savoir et célèbre sa victoire simulée, ce qui renforce les liens, la confiance et l'impression d'avoir œuvré pour la bonne cause. Comme pour tout, il n'y a pas de règle. Parfois, celui qui présente le problème présente également la solution. Il prend alors la position de sauveur, soit par stratégie, soit par manque de temps, soit parce qu'il sait que le groupe n'a pas la connaissance pour aboutir à la conclusion qu'il souhaite. C'est de cette manière, par exemple, que l'État français a privatisé ses autoroutes en 2005 parce qu'elles coûtaient trop cher à entretenir. Notons que ces mêmes autoroutes ont depuis rapporté presque 30 milliards de dividendes à leurs actionnaires privés. Vérifiez toujours la légitimité d'un problème lorsqu'il vous est présenté. Demandez des preuves solides confirmant le problème. Il faut ensuite évaluer la qualité de la solution proposée et ne pas s'arrêter de réfléchir trop tôt afin d'envisager toutes les options. La charge évolutive. Si je vous demandais de marcher 4 km pour aller boire un café, vous me diriez sûrement non. Mais si je vous proposais de vous inviter au resto, vous diriez sûrement oui. Et si je vous proposais d'y aller à pied, vous diriez sûrement oui également. À partir de ce moment-là, chaque pas que vous faites me ramène vers mon objectif. Plus vous avancerez, et plus vous serez enclin à accepter d'aller jusqu'au bout, où, au final, mon invitation s'avère un simple café. Vous serez peut-être en colère contre moi, mais j'aurai obtenu ce que je voulais. Quelqu'un qui m'accompagne pendant 4 km, car je n'aime pas marcher seul. Vous reconnaissez peut-être le cas quotidien de Jérôme qui déménage Pierre dans la première partie de ce livre audio. Cette manipulation collective s'inspire en grande partie du précédent exemple, mais sous la forme de charges. Il est plus facile d'opérer peu à peu des changements, avec beaucoup de parcimonie, pour modeler petit à petit une nouvelle normalité. En général, ces changements se font de manière imperceptible, et le seul moyen de les constater est de faire une analyse du type « avant-après » sur une plus longue période. Retournons dans mon entreprise fictive où je veux réduire le droit de mes salariés. J'ose vous rappeler que tout ça est à titre d'exemple seulement. Dans ma société, j'ai mis le pouvoir à l'horizontale afin que les dérives soient presque impossibles. Si je voulais enlever les privilèges de pause de mes salariés, augmenter le temps de travail et la productivité, j'irais à la rébellion en présentant cet objectif en frontal. Imaginons maintenant que j'annonce à tout le monde que je vais installer un système de pointage le matin et le soir. Des dents vont grincer, mais quelques semaines ou mois plus tard, tout le monde l'aura intégré à son quotidien. Ça sera la nouvelle normalité. C'est là que je pourrai annoncer que nous arrêtons de prendre les pauses quand bon nous semble, qu'elles seront maintenant fixes et à la durée légale pour tous. Les dents grinceront encore, mais au bout de quelques semaines ou mois, ça sera de nouveau devenu la normalité. Et je pourrai continuer ainsi de suite jusqu'à mettre en place tout ce que je voulais depuis le départ. C'est le gouffre qui sépare une normalité d'un changement qui peut créer des refus de la part du groupe. C'est pour cela que les manipulateurs vont diviser le changement en de minuscules étapes qu'ils vont mettre en place dans le temps. Ainsi, chaque changement, comparé à la normalité précédente, est acceptable. Lorsque vous voulez comparer un changement à une situation, essayez de remonter le temps, de plusieurs mois ou années, pour comparer une normalité plus ancienne à la situation assortie du changement demandé. Tous coupables. Sans en avoir l'air, cette manipulation collective touche également au domaine de l'enfance. Que faisiez-vous lorsque vous vous sentiez coupable étant enfant, lorsque vous vous en vouliez? Vous acceptiez la punition peut-être, si tant est qu'il y avait une punition. Mais surtout, vous étiez beaucoup plus sage ensuite, acceptant de faire et dire ce que voulaient vos parents afin de vous rattraper à leurs yeux. Vous cherchiez à marquer des points d'estime dans le regard de celles ou ceux qui vous élevaient. Le groupe fonctionne de manière similaire, mais pour un résultat différent. Si un manipulateur veut opérer un changement impopulaire ou prendre une décision qui pourrait mettre le feu aux poudres, alors il peut positionner ce changement ou cette décision comme étant une conséquence directe d'une erreur du groupe. Le groupe sera plus apte à courber les chines puisqu'il se sentira responsable de la situation. Pour un petit groupe comme pour un État, l'idée est de donner le sentiment au groupe que le milieu, le système ou l'entreprise est parfait en tout point. Et que si quelque chose n'est pas parfait, c'est la responsabilité du groupe. Cette méthode dangereuse va encore plus loin car elle arrive à toucher l'individu. En effet, si l'environnement est parfait et merveilleux, mais qu'au fond vous ne vous y sentez pas bien, allez-vous blâmer l'environnement ou vous? C'est une forme de manipulation très puissante que l'autoculpabilité. Vous devenez alors le seul responsable de tout ce qui ne va pas pour vous. La culpabilité collective se travaille sur le long terme, car elle est transversale à tous les domaines. Elle n'a pas besoin d'avoir de but immédiat et représente au contraire un terreau permanent qui servira le manipulateur à faire passer ses changements ou ses décisions le moment venu. Soyez vigilant à reconnaître votre responsabilité quand c'est la vôtre, mais à reconnaître également quand il est injuste de vous imputer une faute. N'oubliez pas que nous sommes les juges les plus sévères quand nous nous jugeons nous-mêmes. Soyez tolérants et lucides dans vos introspections. L'ennemi commun. Cette dernière manipulation collective ressemble un peu à la deuxième, car dans le fond, il s'agit d'une sorte de détournement d'attention. Le groupe gagne en cohésion lorsqu'il a un ennemi commun, comme lorsqu'il a une victoire commune. Dans mon exemple précédent de la Coupe du Monde gagnée par la France, je vous ai dit que nous étions tous pour la France, mais j'aurais pu préciser que nous étions tous contre le Brésil, alors que nous ne connaissions rien de ce pays pour la plupart d'entre nous. Un ennemi commun permet d'emmener un groupe aveuglément dans une direction. L'esprit de tribu et l'esprit de compétition l'emportent complètement sur la raison et permettent une tolérance plus forte du groupe aux inconvénients. Les exemples politiques ne manquent pas. Malheureusement, ils sont souvent restés au stade d'hypothèse. Les extrêmes pointent des ennemis comme des arguments principaux et à la source de tous les problèmes. Les gouvernements pointent à tour de rôle l'insécurité, la crise, le chômage, comme des entités à part entière contre lesquelles le groupe doit lutter en prenant les bonnes décisions. Les exemples marketing sont tout aussi fréquents aux États-Unis, où les lois en termes de publicité sont différentes des nôtres. Il n'est pas rare de voir Pepsi tacler ouvertement Coca-Cola, placé comme étant l'ennemi. Dans une société, on peut aussi pointer une partie du groupe comme étant l'ennemi, ou un client, ou les taxes, etc. À partir du moment où toutes les raisons des problèmes sont attribuées au même endroit, il y a de fortes chances qu'un ennemi commun ait été fabriqué de toutes pièces par un manipulateur ou par le groupe lui-même. Pourquoi le groupe peut être amené à créer seul un ennemi commun? Pour mieux supporter sa condition et ce qu'il dérange. Soyez donc vigilants pour attribuer raisonnablement les problèmes aux bonnes sources. De nombreuses guerres ont été déclenchées suite à la personnification du mal en une personne, sa traque servant parfois de prétexte à des objectifs économiques ou géopolitiques tout autres.